Et la question, en fait, que je voudrais vous poser, c'est que finalement, avec tout ce qu'on se souhaite comme ça à chaque fois, en début d'année, au mois de janvier, ou comme là pour la reprise, finalement, en fait, qu'est-ce qui reste de nos souhaits et qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette positive attitude? Jusqu'où elle est capable d'aller? Et d'un autre côté, l'autre question que je vais vous poser, c'est entre cette positive attitude parfois qu'on peut avoir et le moment, en fait, où les épreuves viennent, où là, la positive attitude a ses limites. Mais en fait, comment est-ce qu'on gère nos épreuves et où est notre véritable foi en Jésus-Christ? Entre la foi en Jésus-Christ qui, de toute façon, ne nous empêchera pas d'avoir des épreuves tout comme la positive attitude, mais par contre, cette foi en Jésus-Christ qui, quand tu traverses les épreuves et quand bien même la mort viendrait frapper pardon, à ta porte, bah là, en fait, on nous trouverait encore en disant « Je crois en Jésus-Christ ». Et là, ça n'a plus rien à voir avec une quelconque positive attitude. Donc la question, en fait, avant d'aller plus loin, c'est vraiment de se poser et de laisser notre cœur, en fait, répondre à ça. Vous n'avez pas à me répondre, ça ne me regarde pas quelque part, c'est entre vous et Dieu. Et c'est de savoir, en fait, quand l'épreuve vient, où est-ce que je suis dans ma positive attitude, ou plutôt, où est-ce que je suis, en fait, dans ma foi avec Jésus-Christ, et est-ce que je suis capable, même si ça nous prend du temps parfois dans l'épreuve, de dire « Je continue de marcher parce que j'ai choisi Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. » Amen. Et ce matin, si je veux vous parler de fondement, c'est parce qu'en fait, ce vocabulaire-là de fondation comme qui est apparente à la construction, on retrouve en fait cette notion-là dans la parole de Dieu. Et donc en fait, je voudrais vous inviter à prendre Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Et il est dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc là, on retrouve donc ces notions en fait de fondement, ces notions de construction. Il est dit que nous sommes des gens de la maison de Dieu, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, fondement des prophètes, et la ponctuation est très essentielle. Je ne sais pas si on peut remettre juste avant. Donc c'est vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, virgule, donc Jésus-Christ qui est le fondement des apôtres et des prophètes, lui-même étant la pierre angulaire. Donc notre édifice, notre construction personnelle en Dieu, elle est fondée en Jésus-Christ. Et on peut considérer en fait que nous appartenons à la maison de Dieu, à cet édifice, dès lors que chacun d'entre nous a confessé dans sa vie que Jésus est son Sauveur et son Seigneur, alors il reçoit ce qu'on nous appelons l'esprit d'adoption. Tu reçois l'esprit de Dieu qui t'a fait confesser que Jésus est ton Sauveur et que Jésus est ton Seigneur, et alors tu deviens une maison spirituelle. Il n'y a pas besoin de plus pour devenir une maison spirituelle que de confesser le nom du Seigneur. Et alors, tu reçois automatiquement l'esprit d'adoption. Et peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu n'as pas fait, ce qui compte, c'est que tu viens de confesser. Et alors, tu deviens un édifice pour l'Éternel. Alors, tu deviens un lieu où Dieu peut venir en toi et tu lui appartiens. Amen. Et donc ça, c'est à titre individuel. Mais bien sûr, en fait, le fait que nous formions comme ça chacun des édifices, une maison, en fait, où on est tous ensemble maison de Dieu, donc on a cet édifice collectif, et c'est pour cela que donc qu'on est appelé église, en fait, l'église. Donc c'est pas le bâtiment vient nous loger, c'est là où on peut se réunir ensemble. Mais l'église, c'est toi, moi, chacun d'entre nous qui avons confessé que Jésus est notre Sauveur, que Jésus est notre Seigneur. Alors ensemble, nous pouvons former cette église. Ensemble, nous formons ce corps, en fait. Ce corps, comme il est dit, comme je l'avais dit aussi, comme c'est dit dans Éphésiens, un édifice bien coordonné. Chaque édifice que nous sommes tous ensemble réunis, nous formons l'Église de Christ qui doit avoir pour fondement Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Et quand on regarde, donc là en fait je les ai pas pris, mais quand on regarde en fait la Paul, à chaque fois qu'il commençait une épître, à chaque fois qu'il annonçait les choses, qu'il parlait aux églises, il parlait toujours en fait, par exemple, il va prendre l'église d'Éphèse, il va dire à l'église d'Éphèse, en Jésus-Christ, aux saints, en Jésus-Christ, aux fidèles, en Jésus-Christ. Et il y a comment je vais dire ça, ce qualificatif en fait, c'est en Jésus-Christ. Et le but en fait de mon message, c'est que ce matin, on a chanté en fait en disant voilà une joie éternelle, une paix éternelle. On a chanté comme quoi Dieu pouvait consoler, guérir. Et moi-même, je peux confesser que Dieu est capable de consoler et de guérir au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais mon but en fait, c'est que peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce qui va se passer durant les mois à venir, c'est que Dieu puisse nous trouver, nous, Église, et qu'il puisse dire cette Église-là qui est fondée en Jésus-Christ. Qu'il puisse dire Sandy qui est en Jésus-Christ, que Dieu puisse dire de moi Elisabeth qui est en Jésus-Christ, qu'il puisse dire Antonia qui est en Jésus-Christ, que nous puissions tous en fait au travers de nos vies, au travers de cette année, se retrouver au mois de septembre de l'année prochaine et de se dire voilà, moi je sais que je suis fondée en Jésus-Christ, qu'on puisse tous se regarder les uns les autres et se dire je suis fondée en Jésus-Christ, peu importe ce qui se passera, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se souhaiter les meilleures choses du monde, ça n'empêche que ben, quand les épreuves sont là, quand il y a des choses qui doivent se passer dans nos vies, ça se passe quand bien même on a souhaité le meilleur pour nos vies. Donc ça, c'était mon premier point en parlant de fondement. Pourquoi est-ce qu'on parle de fondement? Pourquoi est-ce qu'on parle de fondation dans la parole de Dieu? Et là, maintenant, je vais arriver à mon deuxième point. Et mon deuxième point, en fait, je vais vraiment attirer vos regards en fait sur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ le fondement? Pourquoi est-ce que c'est le fondement parfait? Pourquoi est-ce que c'est le fondement inébranlable de nos vies? Et tout d'abord, je voudrais en fait mettre en évidence le fait que si Dieu nous demande d'avoir pour fondement son fils Jésus-Christ, c'est parce qu'il a été le sacrificateur parfait pour nos vies. Et on sait tous en fait qu'avant la venue de Jésus, on était donc les gens, le peuple d'Israël était sous la loi. Et donc il y avait ses préceptes, ses obligations, ses ordonnances. Et Dieu avait établi au travers de sa loi qu'il allait y avoir des sacrificateurs, les sacrificateurs qui venaient de la tribu des Lévi, qui ont été choisis par Dieu. Et donc, Dieu, lui, régnait dans ce qu'on appelle le tabernacle. Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle et Dieu allait y siéger dans le lieu très saint. Le tabernacle était fait de trois parties, je schématise grossièrement. Il s'était fait de la partie des parvis, donc autour du lieu saint et du lieu très saint. Et le lieu très saint, il n'y a personne qui pouvait y accéder, sauf les sacrificateurs, ou sauf Moïse dans la tente d'assignation, où Dieu lui a donné l'autorisation d'être devant lui. Mais sinon, personne ne pouvait se tenir devant Dieu, si ce n'est les sacrificateurs à des temps résolus. Et les sacrificateurs eux-mêmes devaient effectuer des lavements, ils devaient se laver, laver les mains, laver leurs pieds, laver leur tête, etc. Ils devaient laver leur corps pour la purification de leurs propres péchés. Mais il devait aussi effectuer plein de sacrifices pour la purification du peuple. Mais c'était toujours au travers d'autrui. Si nous avions vécu autant, en fait, et si nous avions été dans le peuple d'Israël, personne n'aurait eu accès à Dieu directement comme nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on a Jésus, et on va prendre Hébreux, chapitre 9, verset 26. Donc là, c'est la fin du verset 26, il est dit, donc en parlant de Jésus, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et on ne prendra pas, mais dans le livre de Jean, il est dit en fait à l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Et aujourd'hui, avec Jésus, et comme ça a été déclaré ce matin, Jésus a ôté le péché du monde. Autrefois, il y avait besoin de sacrificateurs qui devaient tout le temps aller devant Dieu à des temps très précis pour autrui et pour leur propre vie, pour que les péchés soient couverts. Tandis que maintenant, avec Jésus-Christ comme sacrificateur, le péché a été aboli et le péché a été ôté du monde. Et ça, c'est la plus grande puissance que nous puissions avoir, c'est d'avoir un accès direct avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais non seulement le fait que Jésus ait commis une fois pour toutes un sacrifice qui vient ôter tout le péché du monde. Et par rapport à ce matin, en plus, par rapport à ce qui a été dit, on va prendre Hébreux chapitre 10, verset 17. Et là, c'est Dieu qui parle. Et il dit, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Autant, quand c'était sous la loi, les sacrificateurs allaient devant Dieu et ça couvrait le peuple. Mais ça n'empêche que la nature de l'homme ne pouvait pas être changée, comme aujourd'hui on peut être changé et transformé par Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne se souvient plus de nos iniquités, il ne se souvient plus de nos péchés. Et ce matin, considère ces choses-là, considère quel fondement tu as dans ta vie. Est-ce que tu as tout le temps un fondement où tu viens te condamner par tes pensées, où tu viens tout le temps te rappeler toi-même à Dieu ce que tu as fait dans ta vie, où tu es là et tu dis, ouais, tu sais Seigneur, tu te rappelles quand même de cette année-là, tu te rappelles quand même quand j'ai dit ça, quand j'ai fait ça, tu te rappelles là ce mauvais choix que j'ai pris. Et l'Éternel, lui, il est là, devant nous, il dit, non, moi je me souviens pas du tout. Toi tu viens tout le temps devant moi, tu me dis tout le temps les mêmes choses, mais moi je me souviens pas. C'est oublié, c'est effacé, parce que je l'ai dit, je me souviendrai plus jamais de vos péchés, je me souviendrai plus jamais de nos iniquités. Et ça, c'est le premier fondement pour nos vies. Tant qu'on est dans ce joug de culpabilité, on ne peut pas saisir à quel point le fondement de Jésus-Christ est essentiel pour nos vies. C'est un fondement où il a ôté le péché du monde. C'est sur lui, tu peux être libéré de tous tes péchés. En lui, tu peux être lavé de tous tes péchés. Et il ne se souvient plus de tes péchés. Alors, tu peux avancer avec lui et tu peux arrêter de regarder en arrière. Amen. Donc, pourquoi j'ai nommé donc ce point le sacrificateur parfait ? Parce qu'il a aboli, on arrête de couvrir, il a aboli le péché, il a ôté le péché du monde, il ne se souvient plus du tout de nos péchés. C'est nous qui allons à chaque fois devant lui, lui dire et lui rappeler ce qu'on a fait, mais lui ne se souvient plus de rien. Et ensuite, la perfection réside également quant au fait que Dieu a commis le sacrifice une fois. Et si on peut prendre Hébreux, chapitre 10, versets 14 et 15. Il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Une fois pour toutes, une fois pour toutes, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Et on ne l'affichera pas, mais Hébreux 10, verset 18 dit, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. La perfection de Jésus, son sacrifice parfait, réside quant au fait que ça s'est produit une fois. Et le fait qu'il l'ait fait parfaitement, il l'ait accompli parfaitement, il n'y aura plus jamais aucun sacrifice qui sera fait pour abolir le péché du monde et pour nous pardonner. Une fois pour toutes, et comme ça a été dit, une fois pour toutes, nous amenant à la perfection. Une fois pour toutes, un sacrifice commis par un homme parfait. Il était parfait, sans péché, sans tâche. Il est allé sur la croix. Son sang a coulé pour nos vies une fois pour toutes, pour que le péché soit ôté de nos vies. Aucune action, aucune offrande, aucun sacrifice que tu ferais en plus viendrait effacer en... Ne crois pas que ça viendra effacer encore plus quelque chose, mais crois que le sacrifice de Jésus efface tout et totalement tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Et Dieu, il nous l'a offert ce sacrifice avant que quiconque d'entre nous ait la conscience de savoir ce qui avait été fait. Jésus a fait les choses avant même que nous soyons sur terre, avant même qu'on accepte de mettre nos cœurs, de le tourner vers l'Éternel. Jésus a accompli cela. Il nous l'a offert. Et notre fondement, le fondement de notre vie en Jésus-Christ doit être basé sur ça, sur Jésus qui nous a rachetés de tout péché, qui a ôté le péché du monde, qui nous lave complètement, qui nous pardonne, qui ne se souvient plus de nos péchés et qui l'a fait librement et qu'il s'est offert pour nous. Et notre vie doit être basée sur ce cadeau magnifique que Jésus a fait à la croix. Amen. Mon deuxième point par rapport au fait qu'on a un sacrifice parfait, c'est le fait qu'il y en a un sacrifice qui a été effectué à perpétuité. Et souvent, la notion de perpétuité, on l'entend en fait dans les condamnations aux États-Unis. On aime bien dire qu'il a été condamné à perpétuité, couloir de la mort. On sait qu'au pire, il mourra dans sa prison ou alors il aura l'injection létale pour qu'il puisse mourir. Et la perpétuité, on l'entend souvent dans des choses comme ça, dans les condamnations. Bah, laisse-moi te dire ce matin que ta vie est fondée en Jésus-Christ et que si ta vie est fondée en Jésus-Christ, alors tu as une délivrance et tu es sauvé à perpétuité parce que le sacrifice de Jésus est à perpétuité pour nos vies. Peu importe ce qui se pourrait cette année, peu importe si nous sommes repris cette année par Dieu ou pas, peu importe si tu as des épreuves. Et quand je dis peu importe, je ne minimise pas et je suis dans la compassion de chaque personne qui s'ouvre. Mais quoi qu'il advienne de nos vies, si tu as choisi Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, alors ta délivrance et tu es sauvé à perpétuité. Et là, j'aimerais que nous prenions Hébreux chapitre 7, versets 23 à 26. Il est dit, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il est dit qu'il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce, donc le fait de pouvoir être comme ça, lié à Dieu, de pouvoir être, d'habiter dans le tabernacle et de éternellement. Et on va prendre Hébreux 9, versets 11 à 13. Il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Quoi que nous vivions, dès lors que ta vie est en Jésus-Christ, dès lors que tu as confessé son nom, alors tu demeures éternellement en lui, tu as une rédemption éternelle et notre vie doit être fondée en cela. En cela, quoi qu'il advienne de nos vies, quoi qu'il se passera dans nos vies, notre vie c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui est le souverain sacrificateur parfait, lui qui a accompli le sacrifice parfait et qui est à perpétuité. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer quand même, parce qu'on parle du tabernacle de Moïse. La parole de Dieu, en fait, nous parle d'un tabernacle qui n'est pas de ce monde, qui est fait par Dieu. On ne sait où, c'est inimaginable. Et essayez un peu, à un moment donné, de fermer vos yeux et imaginez comme ça un tabernacle qui est fait là-haut, où vous pouvez retrouver un lieu saint, un lieu très saint. Et là, on nous dit que Jésus, lui, est venu. Il a traversé le tabernacle. Donc lui, il a été capable d'aller là où aucun homme ne pouvait aller sans l'autorisation de Dieu. Il allait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, et il a apporté son sang. Et il a dit, voilà Dieu, je donne mon sang pour toute l'humanité. Grâce à ce sang-là, tous ceux qui croiront en moi seront sauvés éternellement. Grâce à ce sang-là, tous ceux qui croiront en moi seront lavés de tous leurs péchés à jamais. Grâce à moi, grâce à ce sang, tous les péchés qui seront commis dans l'humanité et ceux qui demanderont pardon à Dieu seront pardonnés et les péchés seront effacés. Vous imaginez ce qui s'est passé dans les cieux et pourquoi le voile du tabernacle sur terre a été déchiré. C'est quelque chose de puissant dans notre intellect. On ne sait même pas imaginer comment Jésus a pu se présenter devant Dieu, devant le Dieu saint, devant le Dieu parfait et lui présenter son sang et dire « voilà ». Moi, j'ai traversé le tabernacle, le voile a été déchiré. C'est ça le fondement de notre vie. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passera, c'est Jésus-Christ, le sacrificateur parfait et le médiateur parfait, celui qui fait l'intermédiaire à perpétuité avec Dieu pour nos vies. Amen. Et mon troisième point, ce sera le fait pourquoi être fondé en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a eu cette puissance face à la mort que aucun homme ne pouvait avoir. Jésus-Christ, il est le garant de nos âmes. Il est le garant de nos âmes même dans notre mort. Il disait à ses disciples qu'il fallait qu'il s'en aille nous préparer une place. Et quand Jésus a annoncé cela en disant « Je m'en vais, je dois vous préparer une place », il savait très bien que ça allait nécessiter un passage où il allait être mis à mort. Il a souffert jusqu'à la, il a souffert la croix pour nos vies, il a souffert la mort. Et on va prendre Luc chapitre 24, versets 6 et 7. Et là, en fait, il y a des femmes qui vont auprès du, je perds mon mot, qui vont auprès du tombeau, voilà, et qui veulent voir en fait ce qui se passe, où est Jésus. Et là, il y a des anges qui vont dire, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus, le fondement parfait de nos vies parce qu'il est le seul qu'il ait vaincu la mort et qu'il ait vaincu l'ennemi de nos âmes. Dans Hébreux, il est dit qu'il est venu vaincre l'ennemi de nos âmes, celui qui s'appelle le diable. Il a vaincu la mort. Ce qui fait que quoi qui pourrait arriver dans nos vies, la plus grande épreuve, même une maladie qui viendrait, que tu perdes ta vie, tu trouverais encore dans ta mort Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Celui qui est capable de recueillir nos âmes, la mort, il l'a vaincue. La mort ne pouvait, elle, le retenir. Lui, il est plus puissant que tout, il est plus puissant que la mort. Et quand bien même demain je quitterai ce monde, je sais que je trouverai Jésus-Christ. Et le psaume 23, si on peut le prendre également, nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne sais pas pour vous, mais si, on va arrêter là, mais si, quand la mort vient frapper à notre porte, on n'est pas trop rassuré. Franchement, ça a fait flipper parfois quand on vit certaines situations, aussi douloureuses soient-elles, quand la mort vient prendre ceux qu'on aime, quand la mort vient toucher ce qu'on désire le plus au monde, ben on n'est pas rassuré. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit que là, quand bien même nous traversions l'ombre de la vallée de la mort, alors nous trouverions Jésus qui est là avec sa houlette et son bâton. Parce que lui, il a vaincu la mort et personne d'autre. Et en lui, si tu crois, si tu confesses son nom, si ta vie est en lui, alors dans ce cas-là, quand bien même tu serais dans la mort, tu trouverais encore Jésus. Et parce que Jésus est ressuscité, on est capable de vivre ce qui a été chanté ce matin. Que sur des ruines, Dieu est capable de reconstruire. Qu'il est capable de nous consoler là où le deuil est passé, là où la mort est passée, il est capable de le faire. Parce que lui, il est ressuscité. Alors lui, il sait très bien ce que la mort fait, mais comme il l'a vaincu, il est capable de nous rendre vainqueurs aussi dans les épreuves qui nous amènent jusqu'à la mort. Amen. Et pour cela, je voudrais vous partager une chose. C'est par rapport au décès de ma grand-mère. Donc ma grand-mère est morte, elle est décédée en fait fin janvier. Et en fait, je voulais vous partager deux choses qui se sont passées et qui viennent finalement attester que de toute façon, dans la mort, nous y trouvons Jésus-Christ. Donc on savait très bien qu'elle était mourante, on savait qu'elle allait partir et c'était plus qu'une question de jour ou d'heure. Et en fait, on espérait tous, et c'est là où je viens aussi par rapport aux espérances. Elle est décédée le jour de l'anniversaire de ma sœur et moi. Et on espérait tous, et on savait que Dieu était capable de retenir encore sa vie ici-bas et qu'elle décède un autre jour que le 31 janvier 2016. Dieu est capable de le faire, mais Dieu n'a pas permis. Et Dieu l'a reprise un 31 janvier à 4h du matin. Et pourtant, on était tous en train de prier avec ferveur, à demander à Dieu, et même ma grand-mère elle-même qui était encore sur son lit de mort, si on lui demandait « Mamie, tu veux moi encore rester pour notre anniversaire ?» Elle nous répondait « Bien sûr, je vais rester. » Mais elle-même ne savait pas ni jour ni l'heure. Et ce qui s'est passé la nuit où Dieu l'a reprise, ma sœur a fait un songe, avant que ma mère l'appelle pour lui annoncer, elle a fait ce songe-là. Elle a fait le songe où elle voyait ma grand-mère revêtue d'une robe blanche dans une grande étendue de blé et elle voyait un lion avec des grosses pattes vigoureuses aller vers ma grand-mère et s'approcher doucement. Imaginez une grande étendue de blé, un lion, on sait que c'est Jésus, qui s'approche doucement. Hop, il est là, il marche, il s'approche doucement de ma grand-mère. Elle, revêtue d'une robe blanche parce qu'elle a été lavée de tout péché par le sang de Jésus, parce qu'elle a la rédemption éternelle, parce qu'elle confessait encore son nom, même dans les derniers jours de sa vie, elle disait « Je compte sur Dieu ». Alors, elle est avec Jésus. Et ma mère, avant que l'hôpital fasse le coup de téléphone, l'appelle, ma mère, elle était là dans son lit, et en fait, elle s'est mise à avoir un parler en langue, d'une adoration. Elle me dit qu'elle n'a jamais connu cela. Elle n'a jamais connu un parler en langue. Et pourtant, depuis que je suis toute petite, j'entends ma mère parler en langue. Et quand j'étais petite, ça me faisait même vachement rire. Et en fait, je connais le parler en langue de ma mère. Elle me dit, je n'ai jamais eu ce parler en langue-là. Et je sais, elle dit, quand elle a eu ce parler en langue-là, quand elle avait ce chant comme ça en langue, qui venait devant Dieu, avant que le téléphone sonne, elle a dit à Dieu, « Oh non, pas maintenant. » Parce qu'elle savait que ce qu'elle vivait dans l'esprit était lié à sa maman qui était en train de mourir. Et le téléphone a sonné et ils ont annoncé le décès de ma grand-mère. Mais nous, on est pris au dépourvu, en fait, dans les morts des nôtres. Ça nous arrache le cœur, en fait, de voir les nôtres partir. Ça nous démolit, même. On peut être énormément affecté selon notre personnalité, selon les circonstances. Et chaque deuil est différent. Nous, on est pris au dépourvu parce que le rideau se ferme. Et on ne peut plus parler avec la personne qu'on aimait. On ne sait pas du tout, on ne voit pas le voyage qui est fait de l'âme qui part avec Jésus. On ne voit pas ce voyage. Et donc, on est déstabilisé, on est pris au dépourvu. Mais lui, Jésus, il est pris au dépourvu par aucune mort, par aucune mort. Peu importe de la manière dont nous partirions, quand bien même nous serions pris au dépourvu. Lui, Jésus, n'est pas pris au dépourvu. Et si mon âme traverse l'ombre de la vallée de la mort, alors je sais que je retrouverai, comme ma grand-mère l'a trouvé, ce lion vigoureux qui me prend et qui prend mon âme et qui me fait passer, oui, de la mort, mais qui m'est fait ressusciter avec lui et je peux siéger dans la présence de Dieu. Amen. Et pour cela, nous pouvons, alors que nous restons ici-bas et où nous pouvons avoir des épreuves, Claude et moi, on a vécu une épreuve un jour précis, je suis littéralement morte. J'irai pas plus loin parce que ça fera peut-être partie d'un autre message, mais on a été ultra éprouvés jusqu'à la mort, mais où on reste sur terre et on doit passer par la mort. Et je sais que moi, je parle, mais que plusieurs personnes dans la salle ont vécu cela, que parfois dans nos vies, on est éprouvé jusqu'à la mort, mais où on reste vivant et à la limite, on préférerait partir que de rester ici-bas. Et je sais qu'on est capable et que je ne suis pas la seule à avoir été éprouvée, et donc ce n'est pas du tout pour mettre en avant, mais je sais que les douleurs peuvent faire rage dans nos vies au point où on préférerait à la limite que notre vie soit reprise plutôt que de rester et de vivre avec des douleurs qui nous explosent littéralement, où on n'est plus que à terre. Et dans cette mort-là, et c'est pour ça que je le confessais ce matin, dans cette mort-là, je sais que j'ai trouvé Dieu, et je sais que Dieu a été capable de me ressusciter. Et je disais à Dieu qu'il était le seul à le faire. Moi, je lui disais, ce jour-là, je suis morte. Moi, je ne peux rien faire avec la mort, rien du tout. De toute façon, là, elle m'a brisée. C'était que ça que je disais à Dieu. Je disais, toi, si t'es capable. Et je le mettais même au défi, je lui disais même à Dieu, je ne sais même pas si là tu vas être capable de me relever de mes cendres. Et Dieu l'a fait, et c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas par mes forces, et il le fait pour quiconque d'entre nous, qui confesse son nom, même quand l'épreuve est là, même quand la mort viendrait frapper à notre porte. Si nous confessons que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, et ça peut être fait avec la rage, la colère, tu peux être courbé et Dieu ne juge pas les moments où on est courbé, où on est complètement à terre et on a l'impression que plus que de bouffer, excusez-moi l'expression, mais la terre. Dieu ne nous juge pas. Par contre, et c'est là mon plus grand souhait au-delà de toute pensée positive, c'est que si un jour... Moi, j'y suis passée, peut-être que demain sera quelqu'un d'autre, peut-être que j'y repasserai. Et si un jour je suis comme ça, face contre terre, où je n'ai plus que mes larmes pour pleurer, où je suis complètement, j'ai un vêtement de cendre, et si ça nous arrive à chacun d'entre nous, peu importe les circonstances, ce pourquoi tu serais comme ça à terre, à regarder et avoir l'impression que tu n'as plus que la mort devant tes yeux, alors mon plus grand désir, c'est que nous puissions confesser à ce moment-là Je te suis parce que tu es le Christ et parce que je sais que quand bien même je serai en train de perdre ma vie, je t'y trouverai même dans l'ombre de la vallée de la mort. Et c'est ce fondement-là que l'Église a besoin d'avoir et que chaque personne a besoin d'avoir. C'est ce fondement-là et aucun autre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je souhaite le meilleur pour tout le monde, pour les enfants, pour les jeunes, pour tout le monde, la réussite partout. Mais on sait que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. On sait qu'il y a des choses terribles qui peuvent se passer. Et quand les épreuves arrivent, alors rappelons-nous que c'est important d'être fondé en lui parce qu'il est le sacrificateur parfait. Parce qu'il est le médiateur éternel, parce que quand bien même je traverserai l'ombre de la vallée de la mort, alors je le trouverai. Amen. Et je voudrais finir avec quelques raisonnements en fait qui peuvent venir mettre quelque part un frein en fait à cette fondation. Tout à l'heure, donc, je parlais de la du péché, en fait, où plus tu resteras sous ce joug de la culpabilité, et ben ton fondement n'est pas bon. Quand bien même tu penses que c'est bien de te sentir coupable à chaque fois par rapport à tes péchés, ton fondement n'est pas bon. Et c'est celui de Jésus-Christ qui t'a lavé, purifié, pardonné complètement, que tu dois prendre pour ta vie. Les incompréhensions aussi parfois demeurent par rapport au fait qu'on croit que Jésus est venu comme un plan B et non comme un plan A. Alors ça vient enlever toute cette puissance dans la perfection de Jésus-Christ, ça vient enlever toute cette puissance dans la croix parce qu'on pense que Dieu a été pris au dépourvu par la méchanceté humaine. Mais Jésus était un plan A et on ne l'affichera pas, mais vous pouvez aller voir dans le livre de Jean, quand il parle que Jésus est la lumière du monde, qu'avec Dieu était la parole au commencement, et au commencement c'était Jésus qui était la parole et qui a été rendu chair pour que nous puissions nous voir la lumière sur cette terre. Amen. On croit aussi que Jésus, en fait c'est là où ça vient dénaturer la puissance de Jésus à la croix et de son sacrifice parfait, c'est qu'on croit en fait qu'à un moment donné, l'ennemi il a quand même réussi à avoir la main sur Jésus. Qu'à un moment donné, l'ennemi a quand même eu son temps de victoire, en fait, sur Jésus. Et laisse-moi te dire ce matin que l'ennemi ou les gens qui ont emprisonné Jésus, qui l'ont mis sur la croix, n'ont eu de pouvoir que ce que Jésus a bien voulu leur laisser. Et on ne l'affichera pas non plus pour gagner du temps, mais vous pouvez trouver dans Jean chapitre 19, versets 10 et 11, quand Jésus parle à Pilate, quand Pilate lui dit que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner, et Jésus lui dit, tu n'as de pouvoir que ce que j'ai bien voulu te donner sur ma vie. Jésus n'a eu de pouvoir que ce qu'il a bien voulu lui donner. Voilà, est-ce à moi que tu parles? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Tout ce que les hommes ont pu faire sur Jésus, c'est parce que Dieu l'a autorisé et parce que Jésus lui-même l'a autorisé sur sa vie. À la croix, il disait un mot et des myriades d'anges venaient et ils descendaient. Mais Jésus savait qu'il devait continuer à rester sur la croix pour sauver les hommes et les femmes qui allaient croire en lui. Amen. Et aussi par rapport aux puissances des ténèbres, parce que je disais que si nous passions la vallée de la mort, alors nous y trouverions Jésus. Mais aussi en restant ici, quand bien même la mort vient, quand bien même les puissances des ténèbres s'attaquent à nous, alors on a une puissance. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est allé sur la croix, il a anéanti toutes les dominations et toutes les autorités et qu'il les a livrées publiquement à la croix. Il a triomphé d'elles à la croix. À la croix, c'est l'acte le plus puissant que l'humanité puisse goûter. À la croix, là, on pense que Jésus, un temps donné, a été abandonné de Dieu, a été vaincu, ne serait-ce qu'une seconde par l'ennemi. Non, à la croix, il a dépouillé l'ennemi de nos âmes. À la croix, par la mort qu'il a souverte, il a dépouillé l'ennemi de nos âmes. Et aujourd'hui, quand nous annonçons le nom de Jésus, quand nous citons le nom de Jésus face à des gens qui sont possédés, il y a une puissance et les gens peuvent être délivrés. Amen. Et je terminerai aussi par là, c'est toujours en fait cet amalgame entre la loi et la grâce. Et où en fait on a aussi le choix, encore aujourd'hui, de considérer ce que la loi a fait et ce que la grâce nous a donné. Et là en fait je me suis amusée à écrire juste une toute petite scène où je me suis imaginée la loi en fait qui nous parlait et qui nous disait en fait ce qu'elle avait envie de nous dire par rapport à la grâce. Et donc là, c'est Donc c'est la loi qui nous parle et elle nous dit « Hé, je me présente, je suis la loi que Dieu a donnée à Moïse. Grâce à moi, vous avez la connaissance du péché, vous savez ce qui est bon et ce qui est mal devant Dieu. Grâce à moi, vous savez à quel point Dieu est saint et à quel point Dieu est parfait. Cette perfection, vous ne pouvez pas l'atteindre sans un sacrifice parfait. Moi, la loi, je vous annonce un sacrifice parfait nécessaire pour vos vies. Je vous annonce et j'ai annoncé qu'il allait y avoir un sacrifice parfait. Vous avez vu un temps l'ombre de ce sacrifice parfait au travers de moi qui suis la loi. Maintenant que Christ est venu, vous goûtez à ce sacrifice parfait. Vous goûtez à la lumière du monde. Je suis devenue ancienne et vieille. Maintenant, vous demeurez dans une alliance plus excellente. Amen. Alors voilà, je sais vraiment pas tout ce qui va se passer cette année pour nos vies et j'espère le meilleur pour tout le monde. Il y a des mariages qui se préparent, il y a des mariages qui sont annoncés, il y a des beaux événements, il y a le GEM, il va se passer plein de belles choses. Mais si j'ai un désir sur mon cœur en ce mois de septembre, au tout début du mois de septembre, c'est que quoi qu'il advienne, nous puissions confesser que Jésus est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, que nous puissions dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », que nous puissions dire « Tu as les paroles de la vie, à qui d'autre irais-je si ce n'est à toi ?» Que nous puissions avoir cette espérance, ou en fait cette espérance en Christ qui fait que cette espérance est comme une encre pour notre âme aussi sûre et solide qui fera que notre âme sera comme Jésus a pu le faire pénétrer le voile, notre âme pénétrera le voile. Amen. Et alors nous pouvons entrer dans le Saint des Saints et siéger éternellement avec Jésus-Christ. Alors c'est ça mon cœur pour cette année, pour chacun d'entre nous. C'est une vie avec Jésus-Christ, pour fondement seul, Jésus-Christ et sa vérité. Amen. Amen.